Chapitre 8. Ce fut à pas pressés qu'elle franchit la courte distance qui sépare la maison de son oncle du presbytère, curieuse de savoir quelle commission l'abbé Charles pouvait avoir à lui faire, stupéfiée par ce qu'elle venait de voir et ne voulant pas s'arrêter à des suppositions qui, pour vraisemblables qu'elles fussent, n'en étaient pas moins absolument incroyables, prodigieuses, renversantes. Son oncle, toujours si parfaitement maître chez lui, si dur avec les domestiques, quels qu'ils fussent, tombé dans cette faiblesse et cet esclavage. Elle trouva le curé l'attendant, comme lui avait dit son oncle, et, pour passer le temps, en train de ramer une planche de poids dans son jardin. Près de lui, couché dans l'allée, il avait son chat qui l'accompagnait partout, aussi fidèlement qu'un chien, lui servant d'avertisseur, et, par les mouvements de ses oreilles ou de sa queue, lui annonçait la venue de ceux dont il n'entendait point les pas. Quand il aperçut Hortense, il quitta vivement son travail et vint à elle, le visage éclairé par un sourire affectueux. Car il avait toujours eu pour elle une tendresse paternelle, et ce n'était jamais sans satisfaction qu'il la voyait. « Comment allez-vous, ma chère enfant ?»«
Pas trop bien. Et vous, monsieur le curé ?»«
Oh, moi, ma vie est si étroitement réglée que je suis à l'abri des indispositions, sinon de la maladie. »«
Mais qu'avez-vous ?»
« Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Avant, permettez-moi de vous parler de mon oncle. »«
Avez-vous déjeuné avec lui ?»«
Oui. Alors, vous devez être fixé par ce que vous avez vu. »«
Je récuse mes yeux et ne m'en rapporterai qu'à ce que vous me direz. »«
Venez sous la tonnelle. » C'était un vieux berceau couvert de chèvrefeuilles, dont les tiges tortueuses, grosses comme un bras d'homme, disaient la haute antiquité. Un banc de bois en occupait le fond, faisant vis-à-vis à un berger en pierre qui jouait de la flûte au milieu d'un carré de choux. Aussitôt qu'ils furent assis, l'abbé Charles prit la parole. « Je sais, ma chère enfant, que vous n'êtes point une femme d'argent et que votre âme chrétienne peut s'élever au-dessus des vaines considérations de la fortune. C'est pourquoi je ne doute pas que vous n'accueillez avec une pieuse satisfaction la communication que j'ai à vous faire. » Mes prières ont été exaucées, ma voix a été entendue. Votre oncle, dont la conduite était pour moi une cause de désolation, comme elle en était une de scandale pour ma paroisse, renonce au péché, il se marie.
Avec cette fille ?
Sans doute, je sais, et moi-même, j'aurais mieux aimé le voir prendre une femme qui aurait été plus en rapport d'âge avec lui, et différente aussi à certains points de vue. Mais les voies de la divine providence sont infinies. Une autre eût-elle obtenu ce résultat ?
Ce sont les moyens employés pour arriver à ce résultat qui me paraissent inquiétants pour l'avenir.
Je sais. Et aussi le caractère, la nature, le passé de celle qui a pris sur mon oncle assez d'influence pour se faire épouser. Qu'importe que le scandale qui vous désolait cesse s'il est remplacé par un autre. Croyez-vous, monsieur le curé, que le ménage de mon oncle et de cette fille puisse être jamais une cause d'édification pour votre paroisse ? C'est cette considération qui me touche, et celle-là seulement, car vous avez eu raison de dire que je ne suis pas une femme d'argent. Peut-être monsieur la Vaupalière, à qui mon oncle a promis 100 fois son héritage, envisagera-t-il la question différemment ? Mais pour moi, je vous assure que je ne pense qu'à la vieillesse de mon oncle que je voudrais heureuse, ce qu'elle ne sera pas, ce qu'elle ne peut pas être avec cette fille. N'ayons que des pensées et des espérances chrétiennes, mon enfant. Cette personne s'amendera. Certainement, elle s'amendera. Je veillerai sur elle, je vous le promets. Déjà, le fait seul de sa vie régulière sera une excellente préparation. Quant à son passé, n'ayons point des sévérités trop dures, qui par cela même seraient injustes. Qui sait dans quelle tentation elle a pu être entraînée. D'ailleurs, à tout péché miséricorde, c'est la doctrine de notre sainte religion. Isaïe n'a-t-il pas dit « Cessez de faire le mal, et quand vos péchés seraient rouges comme l'écarlate, ils deviendront tout blancs comme la neige. Ayez bon espoir, ayez confiance. » Que cette personne dût s'amender, comme disait le curé, Hortense ne pouvait pas le croire. Telle elle l'avait vue, telle elle resterait, si elle ne devenait pas pire encore.
Mais ce n'était pas de cela qu'elle avait souci, et les dernières paroles qu'elle venait d'entendre s'appliquaient trop bien à son cas pour qu'elle ne les saisît pas au vol. « Quand vos péchés seraient rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » C'était cela qu'elle voulait, cela qu'elle venait chercher, cela qu'elle allait obtenir, et, comme toujours, lorsqu'elle avait une idée en tête, elle n'écouta plus rien. « Ne voulez-vous pas que nous allions à l'église ?» demanda-t-elle en interrompant le curé, qui continuait à réclamer l'indulgence pour cette personne et à préparer des relations possibles entre la nièce et la tante. « Vous êtes pressé de rentrer à Oissel ?»« En vous entendant parler de miséricorde et d'absolution, je suis pressé de m'agenouiller à votre confessionnal. » Il la regarda, surpris par l'accent de ses paroles, autant que par le visage contrit qu'elle venait de prendre. Bien que, dans ses confessions, elle ne se fût jamais accusée que de fautes peu graves, il n'était pas sans inquiétude sur elle, la connaissant assez pour savoir qu'on ne pouvait faire aucun fond sur cette nature décevante qui échappait à toute direction, par cela même qu'elle était toujours prête à suivre celle dont son caprice s'engourait. L'heure des dangers avait-elle sonné ? Vivement, il se leva. « Allons à l'église, » dit-il. Ils traversèrent le jardin pour passer par le presbytère, où, dans le vestibule, le curé prit à un clou une grosse clé luisante et polie, celle de l'église, dont la porte, comme toujours, avait été fermée après l'Angélus de midi. C'est une pauvre église que celle du Tuit, enfoncée de 5 marches dans la terre, avec un nif énorme qui recouvre de son ombre noire le porche et la plus grande partie de la nef, mais pittoresque au milieu de son cimetière planté de pommiers et clos de murs bas tapissés de lierre. La porte ouverte, le curé laissa la clé en dehors dans la serrure, et avant de prendre place au confessionnal, il alla s'agenouiller devant l'autel de la Vierge. Hortense, au lieu de le suivre, était restée en arrière. Aussitôt qu'elle le vit en prière, elle revint sur ses pas, remonta les marches, retira la clé de la serrure, la mit à l'intérieur, et, ayant refermé la porte sans bruit, tourna le pêne. Cela fait, avec autant de rapidité que de légèreté, elle se dirigea vers le confessionnal, où le curé, qui ne s'était aperçu de rien, la trouva en quittant l'autel de la Vierge. Ainsi, la première partie de son plan avait réussi. Enfermée dans l'église, sans avoir à craindre que personne n'entendît sa confession, elle pouvait parler assez fort pour que l'abbé Charles ne perdît pas un mot de ce qu'elle voulait dire. Aussitôt que la planchette eut glissé dans sa feuillure, elle commença. « C'est une coupable, une grande coupable qui se jette à vos genoux, mon père, écrasée par le poids de ses crimes, accablée, torturée par les remords. » Elle parlait d'une voix nette, lentement, en articulant chaque mot, avec une prononciation que lui eût enviée une comédienne de profession, et bien qu'elle tînt en apparence ses yeux baissés, elle suivait sur le visage du prêtre, qu'éclairait dans l'ombre du confessionnal un rayon de soleil, l'effet produit par ses paroles. Ce fut ainsi qu'elle le vit se tourner vers elle. Alors elle s'arrêta, comme si l'émotion de la honte et du repentir la suffoquait. Et cependant, des deux, ce n'était pas elle qui éprouvait l'émotion la plus forte, mais bien lui qui, par ce début, pressentait que les craintes qu'il avait déjà éprouvées, quand dans le jardin elle montrait tant de hâte à se confesser, n'étaient que trop fondées. Des crimes. Elle parlait de crimes. Qu'allait-elle lui apprendre ? L'angoisse lui serra le cœur, car son manque de confiance en elle n'avait jamais affaibli l'affection qu'il lui portait, et depuis 15 ans bientôt qu'il la connaissait, cette affection avait pris quelque chose de vraiment paternel. Que de fois, dans la solitude presque absolue où il vivait, pensait-il à elle, avec une inquiétude attendrie, se demandant si elle était suffisamment armée pour résister le jour où elle se trouverait dans un danger sérieux. Ce n'était pas seulement dans son amitié qu'il se tourmentait, c'était aussi dans sa responsabilité. Il avait charge de cette âme. Avait-il veillé avec assez de soin sur elle? L'avait-il instruite comme il convenait? N'avait-il pas été trop faible? Et pendant qu'elle restait abîmée dans sa douleur, il faisait son examen de conscience sans penser à la presser de parler. Voyant qu'il ne l'aidait point, elle reprit. Je n'aurais qu'à me laisser mourir de désespoir, dans la honte et l'horreur de moi-même, si vous ne m'aviez appris que la miséricorde de Dieu est infinie, et que, si grandes que soient nos fautes, il a des trésors d'indulgence pour qui implore son pardon. C'est ce pardon que je viens vous demander, mon père. Incapable de supporter plus longtemps la vie, dans l'état de désolation et d'accablement où m'a plongé mon crime. Depuis que je l'ai commis, j'ai été retenu de vous le révéler par la certitude de la douleur que j'allais vous causer en vous montrant quelle misérable pécheresse est celle à qui vous aviez accordé une affection dont elle est indigne. Et bien des fois, j'ai eu la pensée de le confesser à un prêtre que je ne connaîtrais pas. Mais j'ai cru que ce serait une lâcheté, et quoi qu'il m'en coûte, je viens à vous, mon père, pour que l'expiation soit plus grande, et aussi parce que je sens que si le calme doit rentrer un jour dans mon âme repentie, ce ne peut être que par votre sainte absolution. » Comme elle avait travaillé ce morceau, elle le débita avec un art parfait. Mais ce fut cet art précisément qui mit le curé sur ses gardes. C'était trop un plaidoyer, pas assez une confession. « De quelle faute avez-vous à vous accuser ? » dit-il. « De la mort de mon mari. »« Monsieur Courteheuse ? » ?»« Hélas, oui. Cette mort n'a pas été naturelle. Aveuglée par une passion coupable, obéissante à un entraînement auquel je n'ai pas eu la force de résister, cette mort a été causée par le poison que ma main a versé. » Il écoutait, le coude appuyé sur une planchette, l'oreille collée au grillage. Il se redressa et, se tournant vers elle, « Vous ? » ?»«
Oui, moi, misérable !»
Violemment, il ouvrit la porte du confessionnal et sortit en levant au ciel ses mains qui tremblaient. « Malheureuse ! » s'écria-t-il. Elle courba la tête comme si elle s'affaissait défaillante. Mais n'ayant nullement perdu son sang-froid, d'un regard coulé en dessous, elle observait le curé. Après être resté un moment, les bras étendus sur elle, bouleversé, frémissant, il les laissa retomber, puis il se dirigea à grands pas vers la chapelle de la Vierge et se jeta à genoux sur la première marche de l'autel. Bien qu'elle ne le vît que de dos, elle pouvait deviner à l'ardeur de sa prière qu'il était jeté hors de lui par l'horreur de cet aveu et que, dans son trouble, il demandait une inspiration à celle vers laquelle il tendait ses mains jointes. Enfin, il se releva, et les paupières abaissées, sans jeter un seul regard vers elle, il revint au confessionnal. « Continuez votre confession, » dit-il d'une voix mal assurée.